Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
VOA Afrique, Le Monde aujourd'hui à Washington.
Jean-Roger Billon à ce micro pour Le Monde aujourd'hui au sommaire de cette édition du mercredi 13 décembre 2023. La COP28, dans un accord historique, a appelé les pays à abandonner progressivement les combustibles fossiles afin d'éviter les pires conséquences du changement climatique. Attaque dans le sud du Nigeria, 6 morts et 2 Sud-Coréens kidnappés. En Sierra Leone, la justice ordonne l'arrestation du leader de l'opposition. L'ONU tire la sonnette d'alarme sur la catastrophe alimentaire qui guette le Soudan en guerre. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Les pays du monde entier ont approuvé aujourd'hui, lors de la 28e conférence sur le climat de l'ONU à Dubaï, un compromis historique ouvrant la voie à l'abandon progressif des énergies fossiles, causant le réchauffement climatique et ménageant les intérêts des pays exportateurs de pétrole. Les détails avec Ginny Niwa.
Il aura fallu près de 30 ans de COP pour arriver au début de la fin des énergies fossiles, a applaudi le commissaire européen au climat, Wopke Hoekstra. La décision préparée par les Émirats arabes unis déclenche une ovation debout et un tonnerre d'applaudissements des délégués. Dans son article le plus conséquent, le texte en débat propose de reconnaître la nécessité d'une réduction forte, rapide et soutenue des émissions de gaz à effet de serre en lien avec les trajectoires de 1,5 degré Celsius et appelle les parties à contribuer aux efforts mondiaux suivants, soit une liste de 8 types d'actions. La transition d'une manière juste, ordonnée et équitable signifie le respect d'un rythme différent selon les pays, leurs besoins de développement et leurs responsabilités historiques dans le réchauffement climatique.
Et les 200 pays participant à la conférence des Nations Unies sur le climat ont conclu donc cet accord qualifié par le président de la COP d'historique. Mais selon l'ONG Oxfam, les résultats de la COP 28 ne sont pas à la hauteur de la justice pour la majorité du monde. Pour une explication, Timothée Donangmaï a joint à Ouagadougou Moumouni Compaoré. Il est chargé de plaidoyer d'Oxfam au Burkina Faso.
Cette COP a été vraiment décevante parce que tous ceux qui sont dans la lutte contre la crise climatique aujourd'hui ne peuvent guère se réjouir de ce résultat. Pourquoi ? Parce que pour nous, le charbon, le gaz ont encore gagné. C'est vrai que dans le communiqué final, on parle d'une transition vers les énergies renouvelables, mais il ne s'agit en aucun cas d'un abandon pur et simple. Et la curiosité est que, juste alors qu'on annonçait une augmentation de la demande pour 2024, donc vous voyez un peu ce contraste et cette inadéquation. Le deuxième élément qu'il faut aussi souligner, c'est la partie financière, la partie ressources qui supporte le coût de cette transition. Il faut dire que historiquement, ce sont les pays développés qui sont à l'origine de cette crise climatique. Pourtant, ils n'ont pas été en mesure où ils ont raté l'opportunité et leur obligation de supporter le coût de cette transition. Donc, ils n'ont pas mis suffisamment de ressources capables pour pouvoir apporter un appui adéquat aux pays en développement et penser pour faire cette transition énergétique. Alors que ce sont des pays qui sont déjà vivement frappés par les dettes, il y a des crises, il y a tellement de défis et d'enjeux pour les pays en développement, ce qui fait qu'aujourd'hui, sans vraiment une certaine responsabilité, sans une mise en garde de la qualité des pays développés pour supporter le budget, toutes les ressources, ce n'est pas évident. En dehors de l'adoption d'un fonds pour les petits produits qui a été fait dans le premier jour de la COP, il faut dire que le reste des attentes n'ont pas été satisfaits. Et c'est vraiment déplorable.
Est-ce qu'il ne vaut pas mieux avoir un compromis aussi imparfait soit-il que pas de compromis du tout?
Oui, c'est vrai que dans cette logique, on essaie de voir que le pétrole, le charbon et le gaz n'ont plus de jour devant eux, mais au regard de la crise et au regard de l'urgence, nous pensons qu'il fallait prendre, il fallait avoir des résultats pour le monsieur. Sinon, nous savons très bien que ce qui est fait, notamment l'adoption du fonds pour les petits produits, c'est déjà est très bien en termes d'actes posés, même si les ressources et les promesses mobilisées dans ce cadre restent insuffisants. aussi, souvenez-vous que nous avons eu des engagements précédents qui n'ont jamais été satisfaits. Donc, du coup, lorsque on sort d'une COP avec des résultats minima, on peut s'interroger sur le respect de ces engagements et de ces résultats qui sont réellement pris de commun accord.
Voilà, c'était Moumouni Compaoré de l'ONG Oxfam. Il est chargé de plaidoyer à Oxfam, Burkina Faso.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'actualité africaine, les États-Unis ont l'intention de reprendre leur coopération en matière de sécurité et de développement avec le Niger, à condition que ce pays prenne des mesures pour rétablir la démocratie, a déclaré aujourd'hui la secrétaire d'État adjointe aux affaires africaines, Molifi, après avoir rencontré les chefs militaires qui ont pris le pouvoir lors d'un coup d'État en G. La diplomate américaine a déclaré qu'elle a rencontré les leaders du CNSP au pouvoir et qu'elle les a encouragés à annoncer un calendrier pour une transition rapide vers un retour à la démocratie. 4 militaires et 2 civils nigériens ont été tués et 2 employés sud-coréens enlevés par des hommes armés dans le sud du Nigeria. L'attaque a eu lieu mardi matin sur une route de l'État de Rivers. Davantage avec Alexandrine Olugnon.
Les assaillants ont tendu une embuscade à un convoi de véhicules transportant 2 travailleurs de Daewoo vers 9h30 selon la police de l'État. 4 soldats qui escortaient les Coréens et leurs 2 chauffeurs civils ont été tués dans l'attaque. Les hommes armés ont également enlevé les 2 Coréens avant de s'enfuir, emmenant avec eux les armes des soldats. La porte-parole de la police de l'État de Rivers, Grace Iringe Koko, a confirmé l'attaque. Elle affirme qu'une enquête est en cours et que les détails seront donnés plus tard. Les enlèvements contre rançon sont fréquents au Nigeria, où les groupes criminels visent parfois les étrangers, notamment ceux travaillant dans les mines et chantiers éloignés des zones urbaines. Plusieurs entreprises asiatiques, notamment chinoises et sud-coréennes, opèrent au Nigeria, où elles sont notamment impliquées dans des projets de construction de routes et chemins de fer.
2 soldats qui patrouillaient à moto dans le nord du Bénin ont été tués mardi par l'explosion d'une bombe artisanale, ont annoncé ce mercredi des sources militaires et policières. Cette région, comme le nord du Togo et du Ghana voisin, est régulièrement secouée par des attaques et des incursions de combattants djihadistes et le gouvernement béninois a annoncé il y a quelques mois le déploiement de soldats supplémentaires pour y faire face. Une centaine d'universitaires africains et français ont réclamé aujourd'hui la libération de l'opposant Joël Laïvo, incarcéré depuis avril 2021 et condamné à 10 ans de prison au Bénin. Dans une tribune publiée dans plusieurs médias béninois, les signataires demandent au président Patrice Talon de faire preuve d'humanité en faisant en sorte que tout soit mis en œuvre pour la libération du professeur Joël Laïvo. Joël Laïvo, enseignant agrégé de droit et farouche opposant à Patrice Talon, avait été arrêté le 15 avril 2021 au lendemain de l'annonce de la réélection de ce dernier avec plus de 86% des voix après avoir été empêché de se présenter. L'opposant sierra-léonais Samora Camara, arrivé 2e à la présidentielle de juin dernier, est poursuivi par la justice de son pays pour une affaire de corruption. Le point avec Dili Diko.
La cour d'appel a ordonné l'arrestation immédiate de l'ancien candidat à la présidence Samora Camara du parti APC, Congrès de tout le peuple, pour son implication présumée dans la vente d'actions détenues par le gouvernement dans une société minière en 2012, lorsque M. Camara était ministre des Finances du président Ernest Bai Koroma, selon le communiqué. Samora Camara est arrivé 2e à la présidentielle en juin, remporté au premier tour par Julius Madabio. Il avait rejeté les résultats et décidé de boycotter le Parlement et les conseils locaux. Le gouvernement et l'APC ont finalement conclu un accord en octobre permettant la fin du boycott en échange de la fin des détentions et des affaires judiciaires visant, selon l'APC, l'opposition. Depuis décembre 2021, M. Camara est poursuivi pour le détournement présumé de 2,5 millions de dollars de fonds publics dans un projet de rénovation du consulat sierra-léonais à New York lorsqu'il était chef de la diplomatie. Le 26 novembre, Freetown a connu des affrontements et en fait 21 morts et qualifié de tentative de coup d'État par les autorités. L'ex-président Koroma est considéré comme suspect dans l'organisation de ces événements, a indiqué la police mardi. Il est actuellement placé sous un régime s'assimilant à l'assignation à résidence.
La RDC a demandé aux Nations Unies d'autoriser sa mission de maintien de la paix à contribuer à la logistique de l'organisation des élections nationales la semaine prochaine. La MONUSCO a déjà contribué à la livraison de matériel électoral dans les provinces orientales de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu, mais son mandat est actuellement limité à ces régions. Dans une lettre datée du 12 décembre, soit hier, le gouvernement de Kinshasa a demandé au Conseil de sécurité des Nations Unies d'autoriser la MONUSCO à étendre son soutien logistique à d'autres provinces. Le porte-parole de la mission, Ndei Kadilo, a confirmé la lettre et a déclaré que la mission attendait la réponse du Conseil de sécurité. Les soldats ougandais ont quitté la force est-africaine déployée dans l'est de la République démocratique du Congo, a annoncé aujourd'hui l'armée ougandaise, quelques semaines après que Kinshasa a décidé de ne pas renouveler le mandat de cette opération régionale qu'elle juge inefficace. Les soldats kenyans et sud-soudanais, toujours présents dans la force, devraient eux partir début janvier. Le programme alimentaire mondial a prévenu aujourd'hui de la catastrophe alimentaire qui guette le Soudan s'il ne parvient pas à distribuer une aide alimentaire aux personnes prises au piège de la guerre depuis 18 mois. Rosine Monizero.
Si l'aide alimentaire à destination des personnes piégées dans les zones où les combats sont les plus intenses, la capitale Khartoum, le Darfour dans l'ouest et le Kordofan dans le sud, n'augmente pas de manière significative d'ici la période qui précède les récoltes en mai, ces zones pourraient sombrer dans un état de catastrophe alimentaire, a prévenu le PAM dans un communiqué. Le nombre de Soudanais souffrant d'une faim aiguë a plus que doublé en un an, atteignant 18 millions de personnes, alerte le PAM. Dimanche, la patronne des opérations humanitaires de l'ONU au Soudan tirait la sonnette d'alarme sur le sort des 20 millions des quelques 48 millions de Soudanais, soit plus de 40% de la population auxquels son organisation n'a aucun accès, et prévenait que l'aide humanitaire pourrait cesser faute de fonds. Le pays, autrefois considéré comme le grenier de l'Afrique de l'Est, a enregistré, selon une récente étude du PAM, les plus hauts niveaux de faim enregistrés pendant la saison des récoltes d'octobre à février, habituellement une période durant laquelle le plus de nourriture est disponible.
L'opposante tunisienne Chaïma Issa a été condamnée aujourd'hui à un an de prison avec sursis par un tribunal militaire qui l'a notamment reconnu coupable d'offense au président Kais Saied sur la base de déclarations dans les médias selon ses avocats. Madame Issa, 43 ans, membre du Front de salut national, avait été emprisonnée en février lors d'arrestations en série dans les rangs de l'opposition. Elle avait été libérée le 13 juillet dans l'attente de son jugement. Et puis l'actualité américaine, Hunter Biden, le fils du président américain, a tenu aujourd'hui une rare conférence de presse pour dédouaner son père de toute implication dans ces affaires controversées, scrutées à la loupe par l'opposition républicaine. Permettez-moi de le dire aussi clairement que possible, mon père n'a jamais été impliqué financièrement dans mes affaires. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. Place maintenant à la Minute Éco avec Rosine Monizero.
Les Émirats arabes unis s'intéressent au projet de gazoduc Nigeria-Maroc. Le pays du Golfe a paraphé un mémorandum d'accord à cet effet avec le Maroc en marge d'une récente visite du roi Mohamed VI à Abu Dhabi, indique l'agence Ecofin. Les Émirats devraient à cet effet contribuer financièrement mais aussi techniquement au projet prévu pour livrer du gaz naturel à l'Europe à partir du Nigeria via 13 pays d'Afrique de l'Ouest et du Nord. Le démarrage des travaux de construction a été annoncée pour 2024. Les États-Unis se sont félicités mercredi d'avoir conclu cette année des accords commerciaux records avec l'Afrique d'un montant total de 14,2 milliards de dollars dans un contexte de lutte d'influence avec la Chine sur le continent. Près de 550 nouveaux accords commerciaux et d'investissement ont été signés, représentant une augmentation de 67% par rapport à 2022. Washington s'est engagé en décembre à investir 55 milliards de dollars sur 3 ans en Afrique. Les États-Unis ont déjà réalisé plus de 40% de ces engagements, a souligné un responsable pour l'Afrique subsaharienne à la Maison-Blanche. L'inflation aux États-Unis devrait se rapprocher de l'objectif de 2% sur un an d'ici fin 2024, a souligné mercredi la secrétaire au Trésor Janet Yellen, estimant par ailleurs que l'économie se trouvait en bonne voie d'un atterrissage en douceur.
le monde. Aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Les pays du monde entier ont approuvé ce mercredi lors de la COP28 à Dubaï un accord ouvrant la voie à l'abandon progressif des énergies fossiles responsables des deux tiers du réchauffement climatique. Nathalie Barge a recueilli la réaction d'organisations environnementales en Afrique, continent le moins pollueur.
Le texte adopté par consensus n'appelle pas directement à la sortie des énergies fossiles comme le réclamaient de nombreux pays et organisations écologistes. Okpe Abalo de Legal Response International, docteur en droit de l'environnement au Togo, a participé à la conférence à Dubaï. Elle porte un regard positif sur l'accord.
L'adoption par consensus des grandes décisions telles que les tests sur les pertes et préjudices, sur l'objectif global d'adaptation et sur le bilan mondial traduit la reconnaissance par tous les États du monde entier de la situation particulière des pays considérés comme vulnérables face aux phénomènes climatiques. Et il reste à croiser les doigts pour que les pays parties mettent en œuvre leur engagement, mais aussi pour que l'équité soit au cœur des processus futurs.
L'accord de la COP28 appelle à s'éloigner des énergies fossiles dans les systèmes énergétiques d'une manière juste, ordonnée et équitable afin d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Plusieurs observateurs ont toutefois remarqué que certaines formulations ambiguës permettent à chacun d'y trouver son compte. L'environnementaliste burkinabé Zainabou Segda a également participé à la conférence sur le climat à Dubaï.
Si les pays développés sont en train de refuser de lâcher les énergies fossiles et en même temps de demander aux pays en voie de développement d'aller vers une transition zéro en fossiles, c'est contradictoire et c'est difficile, c'est invivable pour les pays en voie de développement. Si nous devons nous cantonner à faire du vert sans financement, on ne pourra pas bouger.
Le texte de la COP28 appelle à tripler les capacités d'énergie renouvelable, doubler le rythme d'amélioration énergétique d'ici 2030 et accélérer les technologies zéro et bas carbone. Plusieurs pays africains ont investi dans l'énergie verte comme le Burkina Faso qui a déjà 3 centrales solaires et ambitionne d'atteindre 30 à 40% de part en énergie renouvelable au cours de la transition énergétique. Zainabou Segda.
Je vais citer la centrale solaire de Nagrengo d'à peu près 30 mégawatts. Par exemple, ces 30 mégawatts vont servir à 25 000 ménages. Vous savez que l'accès à l'énergie est très faible, autour de 24. Donc, il y a beaucoup de travail à faire et les centrales sont très importantes justement pour contribuer à ce mix énergétique parce que si on n'a pas ces centrales solaires, nous sommes obligés de continuer à utiliser l'énergie fossile.
Le chef de l'ONU Climat, Simon Steele, a déclaré que tous les gouvernements et entreprises doivent maintenant transformer sans tarder ces engagements en résultats concrets.
Le président ukrainien, aux côtés du président Joe Biden, a demandé mardi aux législateurs américains d'approuver une aide de 61 milliards de dollars pour son pays, alors qu'il continue à lutter contre l'invasion russe. Sans ces fonds, disent-ils, un hiver froid et sinistre s'annonce. Les détails dans ce reportage d'Anita Powell, le récit est de Rosine Monizero.
Well, Mr. President, welcome back.
Les deux présidents ont déclaré que les conséquences seraient désastreuses si l'Ukraine ne recevait pas les fonds dont elle a besoin pour contrer l'invasion russe à l'approche de l'hiver. Mais le Congrès américain, qui signe l'échec, n'est pas encore convaincu. Plus tôt dans la journée de mardi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exhorté les législateurs à adopter la demande de 61 milliards de dollars du président Joe Biden avant la fin de la semaine. Les républicains ont déclaré qu'ils souhaitaient un contrôle adéquat du financement et qu'ils voulaient également une articulation claire de la stratégie. M. Biden a promis de continuer à soutenir l'Ukraine et a déclaré qu'il voulait voir l'Ukraine gagner. Il a également accusé les républicains de faire le jeu de Moscou en ne votant pas le programme d'aide. Le président américain Joe Biden.
L'animateur d'une émission dirigée par le Kremlin a déclaré « Bien joué pour les Républicains, c'est bon pour nous en tant que Russes. Si vous êtes célébré par des propagandistes russes, il est peut-être temps de repenser ce que vous faites. L'histoire jugera sévèrement ceux qui tournent le dos à la cause de la liberté. »
M. Zelensky a continué à demander un renforcement des défenses aériennes et a déclaré que son pays ne céderait pas de territoire. Volodymyr Zelensky, président ukrainien.
J'aimerais demander à ces gens s'ils sont prêts à abandonner leurs enfants aux terroristes. Je pense que non.
Le ministère russe des Affaires étrangères a accusé M. Zelensky de goujaterie, terme argotique signifiant qu'il faut mendier quelque chose d'immérité, et a déclaré qu'il était une marionnette des Américains. Les contribuables américains montrent des signes de lassitude à l'égard de l'Ukraine et certains républicains se demandent pourquoi environ un tiers de l'argent américain est consacré non pas aux armes, mais à l'assistance gouvernementale. John Jameson, un militant du déminage qui s'est récemment rendu dans le pays, a déclaré que l'Ukraine avait besoin de chaque centime.
Les démineurs travaillaient pendant que nous entendions le bruit de l'artillerie. Ils font cela parce qu'ils savent qu'il est essentiel pour eux de pouvoir commencer à cultiver et à produire et de retourner au travail maintenant pour qu'ils puissent vivre, non seulement pour combattre la guerre, mais aussi pour qu'ils puissent vivre. Mais non, nous ne pouvons pas attendre la fin des combats.
Mais à quand la fin de ce conflit? Les analystes estiment que cela pourrait prendre plus d'un an et se demandent si les partisans de l'Ukraine la financent suffisamment compte tenu de l'efficacité de cette petite armée face à un ennemi bien plus grand. Dalibor Rohak est chercheur résident à l'American Enterprise Institute.
Ils sont devenus, d'une certaine manière, victimes de leur propre succès. Je ne pense pas que nous devrions raisonnablement demander aux Ukrainiens d'en faire plus, surtout si l'on considère la nature presque homéopathique de l'aide occidentale. Quand on pense aux quantités de munitions qui sont livrées, les quantités minuscules d'artillerie à longue portée, d'artillerie de précision, de défense aérienne, etc., qui sont livrées à l'Ukraine, je pense qu'ils font un usage vraiment impressionnant des ressources très limitées qui leur sont données, mises à leur disposition, contre un adversaire beaucoup plus coriace.
C'est maintenant au Congrès de décider si l'Ukraine obtiendra ce qu'elle cherche avant l'arrivée inévitable d'un ennemi cruel qui frappe sans remords, l'hiver.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Burkina Faso, cela fait 25 ans que le journaliste d'investigation Norbert Zongo a été assassiné avec trois de ses compagnons. C'était le 13 décembre 1998. 25 ans après, justice n'a pas encore été rendue. Le Centre national de presse qui porte son nom continue de se battre pour que justice soit rendue aux journalistes. Les organisations professionnelles de médias ainsi que celles de la société civile sont aussi mobilisées. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
Ici au Centre national de presse Norbert Zongo à Ouagadougou, des images exposées montrant l'horreur le 13 décembre 1998. L'assassinat du journaliste, un véhicule 4x4 calciné avec à bord ses occupants, dont le journaliste Norbert Zongo, principal inculpé François Compaoré, frère cadet de l'ancien président Blaise Compaoré. Malgré le mandat d'arrêt international, François Compaoré court toujours. Il est en France. Les organisations de la société civile exigent son extradition immédiate. Elle s'adresse au président français depuis l'ambassade de France à Ouagadougou. Ghislaine Dabiré, un porte-parole.
Monsieur le Président, cette orchestration mécanique que vous faites en complicité avec les organes de l'Union européenne pour retarder à souhait l'extradition de Monsieur François Compaoré a fini par épuiser le temps de patience de notre peuple. Par conséquent, il me plaît d'exiger par la présente l'extradition du Sieur François Compaoré dans les plus brefs délais pour éviter de pousser notre peuple à une colère.
Ici au cimetière, des journalistes demandent aussi l'extradition de François Compaoré pour la manifestation de la vérité. Gezouma Sanogo, président de l'association des journalistes du Burkina.
François Compaoré refuse de se soumettre à la justice malgré les mandats d'arrêt délivrés contre lui. Pour cause, le 7 septembre 2023, la Cour européenne des droits de l'homme s'opposait à l'extradition de François Compaoré. La raison invoquée, je cite, le second gouvernement de transition, c'est-à-dire donc le régime du MPSR du capitaine Ibrahim Traoré, n'a pas réitéré les garanties d'une bonne justice au cas où François Compaoré serait extradé. Combien de temps les Burkinabés devront-ils encore patienter pour que justice leur soit rendue?
Pour cette commémoration, plusieurs activités sont au programme allant dans le sens de réclamer justice pour les journalistes et ses compagnons. Abdoulaye Diallo est le coordonnateur du Centre national de presse Norbert Zongo.
Ça fait un quart de siècle que Norbert Zongo a été assassiné. Un quart de siècle, dont 25 ans que nous courons toujours derrière la justice pour Norbert Zongo. Nous n'avons toujours pas cette justice-là. On avait espéré que ce procès allait avoir lieu avant les 25 ans. Les 25 ans sont bouclés, il n'y a toujours pas de procès, il n'y a toujours pas de justice pour Norbert Zongo. Et on espère que, avec la nouvelle année qui s'ouvre, on ne va pas arriver au 26e anniversaire sans qu'il y ait eu le fameux procès Norbert Zongo, même si certaines personnes doivent être condamnées par contumace.
En février 2020, le gouvernement français a autorisé l'extradition de François Compaoré, principal inculpé dans l'assassinat de Norbert Zongo. En septembre dernier, la Cour européenne des droits de l'homme s'est opposée à l'extradition. Mais ici, au Centre national de presse Norbert Zongo, on pense qu'un jugement aura bientôt lieu. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Au Tchad, le secteur de l'élevage est la pierre angulaire de l'économie, juste après le pétrole. Mais aujourd'hui, le pays cherche à utiliser son système pastoral pour devenir un poids lourd sur le continent africain dans les exportations de viande transformée. Les détails avec Deli Diko.
L'Aram Tchad est une usine de transformation de viande ultra-moderne à N'Djamena. Elle est au cœur d'un projet visant à renforcer l'économie du Tchad en augmentant les exportations de viande vers les pays voisins. L'entreprise a pour objectif d'exporter la viande de 200 bovins et 400 petits animaux d'élevage par jour et concurrencer les viandes indiennes, argentines et brésiliennes. L'Aram a commencé à exporter de la viande congelée vers le Gabon en juin et vise également des marchés comme l'Égypte et le Nigeria.
Ils avaient l'habitude d'abattre les animaux dans la rue. Aujourd'hui, nous avons mis en place une unité appropriée où nous pouvons appliquer toutes les normes de sécurité alimentaire et nous assurons que notre produit est sûr à 100%.
La promotion de la viande en provenance du Tchad est une initiative logique puisque le pays compte 110 millions de têtes de bétail. Le secteur de l'élevage est déjà un des piliers de l'économie, le deuxième après le pétrole, et contribue à hauteur de 30% du PIB selon les chiffres de la Banque mondiale. Mahamat Ali, éleveur de bétail, estime qu'il ne sera pas difficile de répondre à la demande des nouveaux abattoirs.
Nous sommes en mesure de leur fournir autant de bétail qu'ils veulent. Les abattoirs apportent des ressources à notre pays et nous allons les aider à soutenir les exportations.
Mahamat Ali estime que le passage aux exportations de viande transformée pourrait remodeler le paysage économique du Tchad en générant des revenus et en créant des emplois. Mais la transition est complexe. Le système pastoral tchadien ne produit pas de bétail standardisé et l'approvisionnement en animaux de poids idéal et vaccinés reste un défi, tout comme la concurrence avec les exportations moins chères des pays industrialisés. L'Aram est détenue à 65% par Arise Integrated Industrial Platforms et 35% par l'État tchadien. Le directeur des partenariats nationaux de Arise, Abdelrazik Hassan Arabi, affirme que l'approche pastorale de l'élevage est un avantage.
Cette manière de concevoir l'élevage au niveau du Tchad et la meilleure manière que nous puissions faire. Donc on est dans l'élevage qu'on appelle le pastoralisme. Donc on n'a pas voulu déranger le mode d'élevage qui se fait actuellement au Tchad. Et c'est par cet élevage que tout le programme a été bâti et c'est par cela que nous sommes en train de voir comment est-ce que nous allons conquérir tous les marchés au niveau international.
Dans l'usine L'Aram, il est prévu de construire la première zone de quarantaine de bétail et la première ferme d'engraissement du Tchad. Cela fait partie de l'initiative plus large de Arise visant à créer 7 zones industrielles spécialisées avec un investissement de plus de 350 millions de dollars.
monde aujourd'hui. Point final pour cette édition. L'information est en continu sur voafrique.com. À bientôt.